souffre, et certainement cette partie du corps qui nous enseigne le plus et qui nous bouleverse et nous secoue, même nous qui sommes dans plus de facilité. Alors on va découper ce temps en trois temps de 10 minutes, et la scène, nous aurons la scène à la fin de ce temps, c'est Rémi qui présidera la scène, hein. 3 temps de 10 minutes, donc d'abord 10 minutes d'une vidéo témoignage pour voir un visage en direct de quelqu'un qui vit, une Africaine qui a vécu des moments extrêmement difficiles. Puis après ce témoignage de 10 minutes, on prendra 10 minutes d'un diaporama où en quelques points on va se rappeler comment l'Église sous la persécution nous enseigne, et nous enseigne notamment à aimer nos ennemis. C'est surnaturel, ça. À aimer nos ennemis. Alors, ça sera entrecoupé de petits témoignages. Vous allez entendre d'autres témoignages aussi dans ces 10 minutes. Et je crois que c'est bien aussi que le troisième temps de 10 minutes, on se mettra par groupe pendant 10 minutes, et on aura chacun un petit carton avec un pays. Et on fera des groupes de 4, hein. Et dans chaque groupe, chacun aura un carton avec 2 cartons pour prier pour 2 pays sous la persécution. Et on priera dans ce groupe pour les persécutés, et 2 autres auront un carton pour les persécuteurs. On priera pour les persécuteurs d'un tel pays aussi. Juste en 10 minutes, voilà. Je ferai 2-3 annonces et puis on passera à la scène. Je pense que tout ça devrait tenir sans qu'on ait besoin d'aller au-delà de midi, hein. Et ce carton, voilà, ces cartons qui sont là, vous pourrez le garder chez vous pour peut-être prier dans la semaine. Voilà. Alors on va commencer par cette vidéo. Donc c'est le témoignage de Gladys, une Africaine. D'entendre ce témoignage, tellement c'est parlant. Alors on va passer un diaporama, un très court diaporama. Vous allez entendre d'autres témoignages aussi, hein. Voilà, très bien, tu peux passer à la suivante. Voilà, donc les 2 paroles fondatrices, aimez vos ennemis, on le trouve dans les 2 discours, dans les 2 sermons de Jésus sur la plaine et à la montagne, dans Matthieu et dans Luc. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Luc 6, 35. Diapo suivante, c'est vrai que j'ai... Mais bon, c'est pas grave, vrai. Oui. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent, qui vous haïssent, pardon, et priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà, donc ces paroles viennent après les béatitudes, et donc ils laissent entendre que nous pouvons être appelés à la persécution. Nous sommes appelés, hein. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, hein. Donc il nous faut nous préparer aussi. Et comment nous préparer au mieux? Oui, ok, merci Rémi. En prenant pour modèle l'Église persécutée, qui apprend à aimer, qui apprend à pardonner. Alors, aimer ses ennemis, c'est pas l'amour naturel, ça n'est pas naturel. C'est l'amour agapé. C'est l'amour dans sa plus haute dimension, hein. C'est l'amour agapé. Et cet amour-là invite à prendre les devants sans penser à soi-même. Cet amour, il donne au lieu de prendre. Il est actif. Bénissez, prêtez, faites du bien, priez. Et quelqu'un a pris cet amour-là aussi en Europe, là. C'est, vous reconnaissez, Corinne ten Boom. Corrie ten Boom, elle a écrit un livre, The Hiding Place. Et dans son livre, elle raconte comment elle et sa sœur Betty ont été internées donc dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et des années après, parce que donc sa sœur est morte, elle s'en est tirée. Mais des années après, lors d'un rassemblement chrétien à Munich, où elle avait donné son témoignage de foi, elle s'est retrouvée face à face avec l'ancien officier SS qui avait gardé les femmes du camp. Hein. Alors voici ce qu'elle raconte dans son livre. Il dit « Il s'approcha de moi rayonnant et s'inclina. Je vous remercie infiniment pour votre message, Fridolin, dit-il, quand je pense que, comme vous l'avez dit, le Christ a lavé mes péchés. Il me tendit la main, et moi, qui avais si souvent enseigné aux gens de Blomendal la nécessité de pardonner, je gardais mon bras le long de mon corps. Je pris conscience de mon péché alors même que je sentais bouillonner en moi un sentiment de colère vindicative. Jésus-Christ était mort pour cet homme. Que me fallait-il de plus ? Seigneur Jésus, priai-je, pardonne-moi. Aide-moi à pardonner à cet homme. J'essaye de sourire. Je m'efforçais de soulever mon bras. En vain, je ne ressentais pas la moindre parcelle de sympathie, de charité. Je priais à nouveau. En silence, Jésus, je n'arrive pas à pardonner. Accorde-moi ton pardon. Et alors que je prenais sa main, une chose extraordinaire se passa. De mon épaule, le long de mon bras et jusque dans ma main, un courant sembla passer de moi à lui pendant que mon cœur débordait d'amour pour cet étranger. Ah, est-ce que Dieu a fait à travers la vie de Corrie ten Boom? Alors, aimer ses ennemis, c'est imiter Dieu. Dieu nous demande de faire la même chose que lui. Dieu nous a aimés, on le dit sans cesse, nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier, alors qu'on était ennemis. Donc Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il ne pratique pas lui-même. D'autre part, aimer ses ennemis, c'est la meilleure protection contre l'amertume et la colère. C'est dans les Épîtres, je crois, Paul qui dit que notre rôle est d'amasser des charbons ardents sur la tête de nos ennemis. C'est-à-dire par des actes de générosité, d'amener notre ennemi à vouloir changer d'attitude, bien sûr. Sa décision ne nous appartient pas. Alors, écoutons encore le témoignage de Nadia en Égypte. Ouais, vous faire entendre le témoignage de Nadia. Nadia est une rescapée d'une attaque d'un bus au cours de laquelle les terroristes ont abattu son fils et son gendre, qui refusaient donc de renier leur foi. Voici ce qu'elle dit. Le 26 mai 2017, 28 chrétiens égyptiens se rendent dans un monastère de la région égyptienne de Minya. Et ils sont morts pour leur foi lorsque des militants du groupe État islamique ont attaqué leur bus. Ils ont arrêté leur bus, puis ils ont systématiquement tué tous les hommes. Nadia était dans le bus. Le premier homme vers lequel ils se sont tournés était son gendre, Samet, assis à l'avant. Ils lui ont ordonné de se convertir à l'islam, dit Nadia. Mais mon gendre a montré le tatouage de la croix sur son poignet et a dit « Non, je ne le ferai pas, je suis chrétien. » Puis on lui a tiré dessus. Un à un, les attaquants se tournèrent vers chaque homme lui donnant le même choix. « Reniez votre foi, mourez. » Puis ils se sont arrêtés là où Annie, son fils, était assis. Il a aussi levé le poignet. Nadia a entendu les dernières paroles de son fils. « Non, je suis chrétien. » Devant la mort de son fils, comment Nadia a réagi vis-à-vis de ses tueurs ? Il a fallu du temps. Le temps passé avec Dieu, avec sa parole, dans la communauté des chrétiens. Petit à petit, Nadia a pu faire ce que beaucoup décriraient comme un exploit apparemment impossible pour une mère qui a assisté au meurtre de son fils et des membres de sa famille. Et vu leurs agresseurs accomplir un crime après l'autre. Et maintenant, avec l'aide aussi de Portes Ouvertes qui s'occupent de soigner hein, ces traumatismes aussi, hein, eh bien Nadia a pu dire « Je prie, pour qu'il soit touché par Dieu, afin qu'il change d'attitude. Aujourd'hui, elle peut dire cela, Nadia. Alors un autre témoignage, c'est Agnès au Nigeria. Je vais essayer de retrouver ce témoignage. Voilà, au Nigeria, Agnès. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah est le plus grand. Les cris arrachent Agnès de son sommeil. Des extrémistes islamistes encerclent le quartier où elle habite avec sa famille et beaucoup d'autres chrétiens. Agnès, son mari, John et leurs enfants tentent de s'enfuir, mais ils sont rattrapés et la famille est séparée. Puis c'est l'horreur. Devant moi, ils ont tué mon mari et mon fils. Pendant qu'ils s'acharnaient à coups de couteau, j'ai fermé les yeux, j'ai invoqué Jésus. Je ne pouvais pas supporter cela toute seule. Pendant 3 jours, Agnès et ses enfants survivants sont restés captifs. Elle était très inquiète pour eux et a finalement tenté d'acheter leur libération. À sa grande surprise, le musulman qui les gardait a accepté et ils ont pu se réfugier chez un ami de la famille. Et dans les temps qui ont suivi, Agnès a beaucoup souffert de la perte de son mari et de son fils. Elle se sentait abandonnée de Dieu. « Laisse-moi mourir, disait-elle, je ne peux pas supporter ça. » Mais ensuite, elle a eu l'occasion de participer à un séminaire de portes ouvertes pour gérer son deuil et trouver la guérison. Et pendant le séminaire, dit-elle, j'avais l'impression de n'entendre qu'un seul mot, pardonne, 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 raconte-t-elle. Ce jour-là, j'ai dit, oui Seigneur, tu es bon, aide-moi à pardonner à ces hommes. Et le jour même, je leur ai pardonné ce qu'ils m'avaient fait. Aujourd'hui, quand Agnès rencontre des musulmans, elle n'éprouve pas d'hostilité à leur égard. Elle sourit en leur parlant de la paix que Jésus lui a donnée. Et quand on lui demande pourquoi la pardonner, elle répond, celui qui vit en moi est plus grand que ce qui est arrivé. Et pour répondre aux besoins de ses 8 enfants, elle a appris à faire confiance à son Père Céleste. Grâce à un programme de formation professionnelle pour les veuves et un prêt fourni tous les deux par Portes Ouvertes, elle a pu ouvrir son propre commerce pour nourrir sa famille. Voilà, l'Église persécutée nous incite à pardonner et nous incite à avoir de l'audace. C'est ce dernier témoignage que j'aimerais vous faire entendre en Égypte. Ça, c'est fantastique. Donc, ça se passe aussi en Égypte. Voilà, je retrouve la feuille. Voilà. Écoutez ceci. Après les tragédies qui ont frappé la communauté chrétienne en Égypte, les chrétiens d'Égypte s'interrogent. Faut-il rester discret ou porter l'amour du Christ aux musulmans? Et donc, ils ont pris l'habitude d'installer des tables devant certaines églises pendant le Ramadan. Et le soir venu, les chrétiens invitent les musulmans à partager un repas dans une convivialité teintée du message d'amour chrétien. Mais ces dernières années, des attentats tragiques ont frappé la communauté chrétienne et par sécurité, donc plusieurs églises n'ont pas eu le droit de dresser leur table. Alors Rami se pose la question, que faire? Prendre des risques et aller à la rencontre des musulmans ou rester cloîtré chez eux, chez soi? Rendre les chrétiens passifs, n'est-ce pas la stratégie de l'ennemi? Et ils ont osé. Un groupe de chrétiens du sud de l'Égypte a choisi l'audace. Si les gens ne peuvent pas venir à nos tables, nous irons à eux. Ils ont collecté de l'argent, préparé 100 colis alimentaires, destination un village reculé, où de maison en maison, chaque famille musulmane a reçu un colis en cadeau. Et la surprise passée, place aux conversations amicales et aux jeux avec les enfants. Magheb, qui participait à la distribution, rapporte les paroles d'un père de famille. Quelle bonté, alors que nous sommes si différents. Nous n'avions jamais rencontrer autant de respect et d'amour. Et parfois, à la demande de la famille, le groupe a prié pour une guérison, un emploi. En rendant visite à ces personnes, nous avons senti le cœur de Dieu, ajoute Magheb. Voilà, l'Église persécutée nous encourage à l'audace aussi. Ouais. Alors, conclusion pour ce diaporama. Aimer ses ennemis, c'est imiter Dieu. Même si on ne vit pas le même type d'opposition, hein, laissons-nous inspirer par l'Église persécutée qui est conduite à aimer ceux qui l'oppriment.